Vous êtes prêts pour la parole de Dieu?
Et
aujourd'hui, justement, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de partager quelque chose sur sa merveilleuse parole. On va voir ce qu'est la parole de Dieu. On va voir ce qu'elle fait pour nous. Comment elle peut agir puissamment dans nos vies. Nous allons voir que cette parole, ça, elle prophétise notre vie quand elle est sur notre bouche. On va voir que Dieu et sa parole sont un d'une façon extraordinaire. Parce que je veux que vous appreniez à connaître cette parole. À savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour vous et qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous dans votre vie. Comment elle peut changer vos situations. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre classique.
Ce
n'est pas un livre que des hommes ont un jour écrit. Mais c'est Dieu qui a parlé à des hommes. Qui leur a donné des messages. Qui leur a donné des révélations. Qui leur a donné la substance pour pouvoir s'exprimer et pour que nous puissions avoir cette parole. Et nous allons découvrir d'abord que veut dire ce mot parole. La meilleure illustration que nous avons, bien sûr, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1, où il nous est réitéré ce mot parole, 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 constamment dans ce chapitre
1.
Et il est dit verset 1 de l'évangile de Jean, au chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était, c'est-à-dire la parole était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, c'est-à-dire par elle a été fait, par la parole tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. En elle, dans la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont point reçue.
Gubgambere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwambere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu uwo muco wakira mu mwiza ariko umwiza niwe wakiriye.
On voit ce mot parole ici qui est réitéré dans ces passages. Et ce mot parole vient d'un mot grec qui est le mot logos. Que nous utilisons souvent d'ailleurs en français quand nous parlons par exemple de géologie.
Théologie.
Partout où il y a logie, eh bien ça vient du mot logos. Et ce mot logos, en fait, ça a été traduit par parole, mais ça veut dire l'expression de quelqu'un. Quelqu'un qui s'exprime. C'est-à-dire qui dit ce qu'il pense. Une des meilleures définitions que j'ai vues de ce mot grec, qui a été traduit donc par parole, et à chaque fois que tu prononces ce mot, la parole de Dieu, eh bien, ça sous-entend ce mot grec logos. En fait, tu prends quelqu'un, tu lui donnes une grosse pile de papier, tu lui donnes autant de stylos qu'il veut, et tu lui dis, voilà, tu vas t'exprimer sur d'abord qui tu es, ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu fais actuellement, ce que tu planifies de faire, et tu vas nous dire ta pensée sur tous les sujets. Voilà. Il exprime sa pensée.
Et
le mot logos, ça reflète exactement cela, l'expression de Dieu. À chaque fois que tu dis la parole de Dieu, en fait, tu dis l'expression de Dieu. Quand tu invoques la parole de Dieu, ça veut dire voilà ce que Dieu pense. Voilà ce qu'il a mis par écrit, parce qu'il a mis par écrit sa pensée. Et il l'a transmise aux hommes. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc à chaque fois que tu invoques la parole de Dieu, à chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, à chaque fois que tu dis à Dieu, Seigneur, dans ta parole, tu dis que. Seigneur, tu es ni plus en train, ni plus ni moins en train de lui dire, voilà ce que tu penses, Seigneur, ce que tu as exprimé. Donc c'est exactement ce que tu es, Seigneur. Parce que Dieu se révèle par sa parole.
Il
y a beaucoup de gens qui disent, oui, où est la révélation de Dieu? La révélation première de Dieu est dans sa parole. Tout ce qu'il est, c'est marqué dans sa parole. Tout ce qu'il n'est pas, que les gens peuvent dire qu'est. Qu'il est, ce n'est pas, qui n'est pas révélé dans sa parole. Eh bien, ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que les religions nous disent des choses qui ne sont pas dans la parole. Les philosophies, les pensées des hommes nous disent des choses sur Dieu et qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Dieu s'est exprimé. Cette parole, c'est l'expression de la révélation de Dieu. Et Dieu soit béni parce qu'il nous a laissé cette parole. Et il y a des raisons pour cela. Parce que vous savez, quand Dieu parle, c'est de la dynamite. De la dynamite spirituelle qui transforme les situations, qui amène la création, qui prophétise le futur. Quand Dieu parle, oh, il y a beaucoup de choses derrière les mots de Dieu. Un jour, Dieu a parlé, Hébreux 11, un jour, Dieu a parlé. Ça, c'est une pensée sur laquelle nous devons méditer sérieusement. Hébreux 11, verset 3, il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on ne voit pas ne provient de ce qui est visible. Donc, Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Chaque chose que nous voyons, et même que nous ne voyons pas au début, qui est en dehors de Dieu, a été créé par la parole de Dieu. Le monde invisible a été créé par Dieu. Parce qu'un jour, il a parlé. Dieu, au départ, dans un passé éternel, il était là. C'est la question que beaucoup de gens ont. Mais Dieu, un jour, il a bien commencé par quelque chose. Il est né quelque part. Non, Dieu n'est pas né. Parce que toi, tu as la notion du temps. Parce que Dieu t'a limité dans le temps. Quand tu seras dans le ciel, tu verras ce que ça veut dire de ne plus être limité dans l'espace-temps. Le jour où nous allons aller aussi au troisième ciel, après notre mort physique, le temps ne sera plus le temps de la terre. Un jour, j'ai médité sur ça et j'ai vraiment interrogé le Seigneur par rapport à ça. Parce que je me disais la chose suivante. Je disais, Seigneur, moi j'ai envie de faire beaucoup de choses pour toi sur cette terre. Mais je sais qu'un jour je vais partir au troisième ciel dans ta présence. On a la description de la Jérusalem céleste, etc. Mais je me posais la question. Je me disais, Seigneur, quand même, Si tu mets longtemps à revenir prendre ton église, on risque pas de s'ennuyer là-haut. Tous les jours, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, le Seigneur m'a montré une chose. Le temps n'existe pas dans l'éternité. C'est ton corps qui te donne la limitation du temps. C'est pour ça que la Bible nous dit que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour.
Parce que
pour Dieu, la notion du temps, c'est une limitation pour les hommes. Ce n'est pas une limitation pour lui. Et pour ceux qui sont dans la gloire. Là-haut dans le ciel, il n'y a pas une pendule où il est dit, il est 9h30, le début du culte de l'église El Shaddai commence. Ça n'existe pas. Le temps, c'est quelque chose qui est limité pour nous.
Chaque
seconde qui passe, tu le sais. Dieu n'a pas de passé limité. Il existe de toute éternité. Il existe par lui-même. Il est. Toi, tu as. Mais lui, il est. Il est toute chose. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Toi, tu es limité. Lui, il n'a pas de commencement ni de fin. Parce qu'il est Dieu par nature. Et c'est sûr que nous, dans notre petite tête, on a du mal à comprendre ça. C'est parfois difficile. Vous savez, quand nous méditons sur Dieu, sur la personne de Dieu, parfois, nous sommes tellement limités dans nos têtes. Qu'on a tendance à réduire complètement qui est Dieu. Lorsque Dieu a commencé à parler dans l'univers, il a dit que les choses soient. Et les choses ont existé. Vous savez, il y a des scientifiques qui se moquent de Dieu. Mais ils ne comprennent pas une chose, ces gens-là. Chaque atome qui tient. Ça tient parce qu'un jour Dieu a parlé. Si Dieu disait maintenant que tout soit en désordre dans l'univers, tout disparaîtrait. Parce que la Bible nous dit que l'univers tient par la parole de Dieu. L'univers tient par la parole de Dieu. L'infiniment grand et l'infiniment petit de l'univers tient parce que Dieu a parlé un jour, qu'il a créé, que l'ordre qu'il a établi est immuable selon sa parole. Médite un peu là-dessus parce que tu as tendance à regarder ton petit grain de sable de problème et tu as tendance à en faire une grande montagne devant l'infini de Dieu. Et j'essaye de stimuler un peu ta foi et tu vas comprendre comment tu peux utiliser la parole. Dieu a parlé un jour et l'univers est venu. Dieu a tout créé. Il était au commencement. Dans un passé éternel, pour nous ça nous dépasse. Il a parlé. Et les choses sont venues à l'existence. Et Dieu nous a fait la grâce immense de transmettre sa pensée, sa parole. Et c'est là où on va voir à quoi sert cette parole. La parole nous donne d'abord la révélation de qui est Dieu, nous l'avons vu. La chose que la parole te donnera aussi, c'est l'intelligence divine. L'intelligence divine. Regardons ensemble le psaume 119. Et là, je vais parler d'intelligence. Parce que souvent, les chrétiens ont été extrêmement mal éduqués à propos de l'intelligence. Parce que quand on parle d'intelligence, tout de suite, les gens disent « Ah, c'est du rationalisme, du raisonnement. » C'est vrai que le raisonnement selon ce monde et le raisonnement des circonstances, l'intelligence selon ce monde est une intelligence rationnelle qui va à l'encontre de la foi et du surnaturel. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a une autre forme d'intelligence dont la Bible parle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme une fois, je vous avais fait un sermon sur l'imagination. Et souvent, quand on parle d'imagination parmi les chrétiens, ils sont tout le temps en train de parler de l'aspect négatif de l'imagination. Mais je vous ai montré qu'il y a un aspect divin de l'imagination où Dieu peut t'amener Avoir des choses au travers de ton esprit, ça va monter dans ta tête. Et à ce moment-là, ça va te donner une vision prophétique sur ce que le Seigneur a pour toi. Et ça va bien passer par ta tête. Et c'est ça qui va stimuler ta foi. Qui va t'aider à entrer dans les choses de Dieu.
Avoir
plus grand, avoir plus haut pour sa gloire. À vouloir voir les choses comme si elles étaient. C'est ce qui va stimuler ta foi. Parce que le plus grand combat dans ta foi, c'est le combat qu'il va y avoir quand la parole de Dieu est à l'intérieur de toi. Et ta tête qui est en train de te dire le contraire et qui essaye de te diriger, de te forcer à aller à l'encontre de Dieu. Et c'est la même chose sur l'intelligence divine. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. C'est pour ça qu'ils restent là en train de prier. Et je vous rappelle que la prière a son rôle. Mais Dieu veut ici utiliser ta tête, l'influencer, t'amener dans tes mentalités supérieures, divines, grandioses. Parce que sinon tu ne seras pas stimulé dans ta foi. Et quand tu voudras obéir à la parole de Dieu, ta tête que tu laisseras faire n'importe quoi va t'amener justement à l'encontre des choses de Dieu. Et tu vas passer à côté du surnaturel divin. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de chrétiens font. Dans le psaume 130. Il est dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux gens simples, aux gens, c'est-à-dire qui ne sont pas éduqués dans Dieu, dans les choses du Seigneur. Regardez verset 104. Il est dit, par tes statuts, par ta parole, par tes ordonnances, par tes ordres, je deviens intelligent.
Il y a deux
types d'intelligence.
Il
y a l'intelligence qui est influencée par l'éducation de ce monde. Tu fais des études, tu étudies un sujet. Et ça, c'est très bien. Et franchement, on vous encouragera toujours à aller le plus haut possible. À réussir dans l'éducation. Parce que nous devons avoir un peuple de Dieu qui est éduqué. L'éducation ne fera pas tout pour vous, mais c'est quelque chose qui est important dans la vie. Faire des études, réussir. Dans le domaine des études, c'est une bonne chose. Mais c'est une chose dans laquelle nous voulons vraiment encourager les chrétiens. Parce que souvent, malheureusement, on a vu un évangile qu'on a prêché. Où on a dit aux gens, non,
il ne
faut pas étudier. Entre guillemets, il faut être simple, il faut être bête, il faut se laisser faire. Le ciel est pour nous. Au ciel, tout ira bien. Et on voit un peuple de Dieu qui se fait dominer par les inconvertis. Et ça, c'est inacceptable. C'est pour ça que nous avons besoin d'un peuple de Dieu qui est éduqué selon l'intelligence de ce monde.
Mais
je rajouterai pas seulement. Pas seulement. Parce qu'il existe une autre forme d'intelligence. Une intelligence que le monde ne comprend pas. Et ça, c'est seulement par la parole de Dieu que tu peux l'acquérir. Et cette intelligence provient d'une supra-intelligence qui vient du ciel. Où Dieu nous donne des principes dans sa parole qui passent au-delà de toute l'intelligence humaine. Et c'est là-dessus que tu dois travailler tes mentalités. L'autre intelligence, tu ne la mets pas à la poubelle. Si tu es doué dans tes études, c'est très bien, c'est une bonne chose. Profites-en. Mais ne fais pas de ça le sujet premier de ta vie. Travaille l'intelligence qui va être transmise par la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans un royaume qui est double. Il faut bien comprendre ces choses. Il y a le monde naturel que nous voyons, que nous percevons avec nos sens.
Et
nous devons avoir du bon sens dans ce domaine-là.
Pas
faire comme des chrétiens qui spiritualisent tout et qui, dans la vie de tous les jours, sont des gens qui font tout et n'importe quoi, parce que ça, il y en a assez. Mais nous devons travailler dans le domaine de Dieu, où le monde spirituel du royaume de Dieu doit influencer et dominer nos vies. Et ça, tu peux le faire seulement si tu comprends
que
tu dois faire travailler tes mentalités, ton intelligence spirituelle, c'est-à-dire la compréhension des choses de Dieu et du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose que tu ne peux recevoir qu'au travers de la parole de Dieu. La Bible nous dit quelque chose d'important dans Éphésiens 3 et Colossiens 2. Il faut vous saisissiez quelque chose ce matin. Je veux vous aider à comprendre que cette parole que vous avez dans les mains, ce n'est pas un bouquin ordinaire, mais c'est la puissante parole de Dieu qui peut vous donner la réponse à chaque problème. Dans Éphésiens chapitre 3, Paul va nous dire un certain nombre de choses à propos de révélation et d'intelligence. Regardez un peu ce qu'il dit. Verset 1, chapitre 3. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation, regardez bien, que j'ai eu connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en quelques mots. » En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.
Nicyo gituma jewe Pawulo ku murongo wa mbere imbohe ya Kristo mbohewe mwebwe abanyamahanga namba mwarumvise ububwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira yuko mu guhishurirwa nati wibanga cyangwa ubwenge nkuko nabanje kwandika mu majambo make namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga cyangwa ubwenge ibanga rya Kristo cyangwa ubwenge bwa Kristo.
Dieu veut te transmettre son intelligence.
Urumva Imana agomba kuduha ubwenge bwayo.
Pourquoi?
Kubera iki?
Pour que tu sois efficace dans son royaume.
Kugira ngo ugire ikimaze.
Pour que tu le glorifies.
Uyiheshe icyubahiro.
Pour que tu amènes les autres à Christ.
Uzane abandi ku Mana.
Pour que tu trouves des réponses divines aux problèmes humains.
Uronkere inyishu ibibazo abana b'abantu bafitiye.
Pour que tu ne sois pas un générateur de problèmes relationnels, mais que tu sois une source de solutions. Que tu sois une source de solutions économiques. Que tu sois une source de solutions pour les hommes. Chacun d'entre vous, vous êtes placé dans un domaine dans lequel Dieu veut vous placer. Chacun d'entre vous, vous avez reçu des dons et un potentiel de Dieu. Car Dieu nous transmet des choses. Maintenant, tu as besoin de la parole de Dieu pour avoir cette intelligence de Dieu et pour pouvoir être une semence là où tu es placé ici dans cette nation pour la gloire du royaume de Dieu. Je vous garantis, si en tant qu'église nous comprenons ce principe, cette église va exploser d'une façon extraordinaire. La gloire de Dieu va se faire voir d'une façon extraordinaire, d'une façon tellement manifeste que les païens viendront chez nous chercher des solutions. Je vous l'ai dit, les païens doivent venir chez les chrétiens chercher des solutions. La plupart du temps, ce sont les chrétiens qui courent vers les païens pour chercher des solutions. Et ça, ça veut dire que nous sommes dominés.
Amen.
Oh là là. Steve, je crois que je vais rentrer à la maison.
Amen.
Je veux vous faire comprendre une chose. C'est que vous avez dans les mains la parole de Dieu. Cette parole peut complètement, totalement révolutionner votre vie. Et vous pouvez être une semence dans cette nation pour aider la transformation d'une nation. Je vous assure, Dieu nous a donné les clés de ça. Dans sa parole. Dieu veut
que
tu cherches dans sa parole. Son intelligence. C'est la parole de Dieu qui va te transmettre les solutions au problème et aussi faire avancer les choses. Je suis désolé de le dire. La plupart du temps, ce ne sont pas les chrétiens qui font avancer ce monde. C'est tristement les païens. Moi, si ça ne vous révolte pas, moi, ça me révolte de plus en plus. Ouvrez les yeux, frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est nous qui devrions être devant. Et si nous ne le sommes pas, c'est parce que nous ne regardons pas suffisamment à l'intelligence que Dieu veut nous transmettre. Dieu est la source de toutes les solutions. Il est la solution pour le péché. Il est la solution pour la maladie. Il est la solution pour la pauvreté. Il est la solution pour les problèmes relationnels. Il est la solution pour un changement de mentalité. Il est la solution pour toutes choses. Toutes choses tu trouves dans l'intelligence divine. Si tu veux trouver ces choses, si tu veux les trouver, parce qu'elles sont ici, elles sont à ta portée. Elles sont à ta portée. C'est là où il y a cette intelligence. Vous voyez, Paul disait, j'ai l'intelligence du mystère de Christ. Dans Colossiens 2, il dira la chose suivante. Colossiens chapitre 2. Et sachez qu'il y a un combat immense entre amener la connaissance divine sur cette terre qui s'oppose au royaume visible pour soumettre les choses du royaume visible. Il y a un immense combat. Paul savait cela. Il disait verset 1, je veux en effet que vous sachiez quel est le grand combat que je soutiens pour vous et pour ceux de Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu en Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
N'abatarangu bitijisho bose uko bangana kugira ngo imitima yabo ireme kuko batamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura tamazinda babone kumenya ibanga ry'Imana canke ubwenge bw'Imana n'iryo Kristo.
Donc cette parole te transmettra l'intelligence, te transmettra les lois divines, comment tu dois te comporter. Qu'est-ce que tu dois pratiquer? Quelle doit être ta mentalité? Et des fois, ça peut nous choquer. Dieu va nous dire, par exemple, aimez vos ennemis. Non,
tu as
envie d'une chose, c'est d'haïr ton ennemi. Dieu te dit, donne à mon royaume. Tu dis, mais Seigneur, si je donne, je vais avoir en moi. Parce que tu as une intelligence. S'il te demande des choses, c'est qu'il a ses raisons. Pratique certaines choses, Dieu te le dit. Sois rempli du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, d'accord, mais être rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Dieu a des lois. Nous sommes dans son royaume. Si tu apprends ces choses, si tu regardes la sagesse divine, l'intelligence divine, ta vie va être influencée par le royaume de Dieu. Et tu vas influencer les autres. Nous devons influencer le milieu dans lequel nous sommes. Ce n'est pas le milieu dans lequel nous sommes qui doit nous influencer. Je paraphrase ce que Jésus a dit en nous montrant que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes plus du monde. C'est ça que ça veut dire. Nous ne sommes plus du monde mais nous sommes dans le monde. Qui influence qui? Cherche dans ta vie. Qui influence qui dans ta vie?
Dans
les gens qui t'influencent autour de toi. Parce que nous sommes tous influencés par les gens qui sont autour de nous. Qui influence qui dans ta vie? Est-ce que c'est toi qui les influence vers le Seigneur ou c'est eux qui t'influencent vers le monde? Il y a des lois spirituelles pour ça. Il y a des choses que la parole de Dieu nous dit. De faire, de ne pas faire. Pourquoi? Est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce que Dieu sait qu'on est dans son royaume? Mais en même temps, on est dans un double royaume qui est le royaume physique autour de nous. Qui lui est influencé par l'esprit de la puissance de l'air. Donc Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions dominer ces choses. C'est ce que la parole de Dieu fait pour nous. Qu'est-ce que fait la parole de Dieu autrement? Regardez ce que Jacques dit, quelque chose de très intéressant. Jacques chapitre 1 à partir du verset 22. Tu vas apprendre quelque chose quand tu lis, quand tu médites la parole.
Ce
que cette parole va te montrer. Regardons ensemble verset 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant seulement pour l'oublier, mais en pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action, dans son œuvre, dans son activité même. Qu'est-ce que nous dit la Bible ici? La Bible nous dit que quand tu commences à plonger tes regards dans la parole, c'est comme si tu te mets devant un miroir. On se met tous devant les miroirs. Steve, par exemple, quand il se coiffe, comme ce matin, il s'est mis devant le miroir.
T'as
bien regardé si t'avais pas des mèches qui sortaient, Steve, ça va.
On
se regarde tous dans les miroirs. Surtout les dames passent beaucoup de temps dans les miroirs. Pourquoi? Parce que dans un miroir tu te reflètes. Tu peux voir comment tu es. Mais dans un miroir naturel tu vois comment tu es physiquement, naturel, dans le naturel. Et si par exemple tu t'es mal maquillée, madame, eh bien tu le verras dans ton miroir. Et qu'est-ce que tu voudras faire avant de sortir de la maison? Si tu n'es pas bien coiffée, bah, tu vas corriger avant que quelqu'un te dise: ouh, yo, qu'est-ce que tu es mal coiffée ce matin?
Ou
le monsieur qui a mis sa cravate comme ça.
Et
qui va sortir comme ça, ou qui a oublié de mettre des boutons ici, ou qui a oublié de fermer son pantalon.
Eh
bien, on va se regarder dans le miroir avant. Parce que quand tu sors, tu ne veux pas que quelqu'un te fasse une réflexion. Ou que tu aies oublié quelque chose qui serait très gênant pour toi.
Eh
bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. Mais la parole de Dieu va faire ça dans le domaine spirituel. Elle va nous montrer où nous en sommes. Elle va nous montrer aussi nos défauts de caractère. Elle va te montrer comment tu es. C'est pour ça que cette parole doit prédominer. Tu es là, tu ouvres la parole, tu médites la parole. La Bible nous dit que nous sommes en train de nous regarder. Mais la Bible nous dit, faites attention. Tu écoutes, tu es d'accord? Il faut que tu pratiques. Parce que si tu ne pratiques pas, eh bien en fait, tu oublies comment tu es. Et tu ne changes pas. Tu n'es pas transformé. Alors que l'objectif de la parole, c'est de te montrer comment tu es, de corriger tes défauts, tes problèmes.
Et
quand tu sors, Tu sais que tu es bien, que personne ne te dira, oh là là, il y a un gros problème dans ta vie. Donc cette parole, c'est un miroir, le miroir de notre vie spirituelle. C'est le miroir de notre caractère. C'est le miroir d'où nous en sommes avec le Seigneur. Ensuite, une autre chose que la parole de Dieu fait.
1 Jean 5,
14.
1 Jean 5, 14.
Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14. Il est dit, 1 Jean 5, 14, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Demandez quelque chose selon sa volonté. Sa volonté est exprimée où ? Dans sa parole. Dans sa parole. Si tu veux avoir une vie de prière productive, parce qu'il ne te sert à rien de prier si tu ne veux pas avoir de résultats. Tu perds ton temps à prier, à prier, à prier, si tu pries de façon non scripturaire, c'est-à-dire non, en n'étant pas en accord avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu va faire quoi? Elle va orienter ta vie de prière. Tu vas savoir quoi demander à Dieu. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Qu'est-ce qui t'est promis? Il y a beaucoup de chrétiens qui demandent des choses qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Si tu fais ça, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux demander à tout le monde de prier, ça ne fonctionnera pas. Cette parole t'a été donnée avec des promesses. Donc il faut que tu passes du temps dans cette parole à chercher tes promesses. Et à ce moment-là, tu te mets devant ton Seigneur et tu commences à dire, Seigneur, ta parole dit, ta parole promet que. Donc Seigneur, je sais que je demande quelque chose selon ta volonté. Donc selon 1 Jean 5, 14, alors Seigneur, je sais que tu m'écoutes. C'est extraordinaire d'avoir une telle assurance. Imaginez-vous, c'est tellement simple. À partir du moment où je formule une demande qui est conforme à ce que la parole de Dieu dit, la pensée de Dieu pour moi, la Bible me dit que j'ai cette assurance qu'il m'écoute. Alors arrête de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'as entendu, Seigneur? Est-ce que... Ça, c'est des prières de bébés spirituels. Ça va quand tu as 6 mois dans le Seigneur, 1 an, voire 2 ans dans le Seigneur. Mais si tu continues à prier ça alors que tu as des années et des années dans le Seigneur, révise ta copie. Cherche dans la parole ce qui t'est promis ou pas. Et si ça t'est promis, tu prends la parole, tu passes du temps à méditer cette promesse et tu te présentes devant ton Dieu avec assurance. En disant, Seigneur, ta parole a promis que je me tiens sur cette parole, sur cette promesse. Donc ça te donne une base fondamentale pour ta vie de prière. En dehors de la parole de Dieu, tu n'as pas de fondation pour ta prière. Donc à chaque fois que tu fais une demande devant ton Seigneur, alors que tu es né de nouveau, que tu as droit, que tu es juste devant lui, que tu peux te présenter devant lui, cherche si ce que tu vas demander à Dieu est conforme à sa parole. Si c'est conforme, vas-y avec assurance. Seigneur, merci. Parce que je sais que ça c'est conforme à ta parole. Donc je sais que tu entends ma requête, Seigneur. Et je crois que tu vas y répondre. Hébreux 4, verset 12. La Bible nous parle encore de la parole de Dieu. Et elle nous parle de quelque chose qui est très important. Moi je sais que ce verset m'a beaucoup aidé pendant une période dans ma vie chrétienne. Hébreux 4, verset 12. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace.
Ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubukuba.
Elle est vivante et efficace.
Ngo ni rizima kandi rifise ubukuba.
Elle est vivante et elle œuvre littéralement. Elle agit.
Ni rizima kandi rirakora, rirakarishe ku buryo rishobora gukora.
Et quand tu commences à dire la parole de Dieu est vivante, ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Et qu'elle agit, elle œuvre en ma faveur. Dieu t'a donné sa parole pour agir en ta faveur. Dieu veut que tu saches donc utiliser cette parole pour qu'elle ait une action dans ta vie. Qu'elle puisse agir dans ta vie. La parole de Dieu n'est pas seulement un joli livre constitué de 66 chapitres, hein, c'est ça je crois?
Bien.
Ah, merci.
Iki si gitabo gusa kirimo ibice ibitabo 66 byanditswe
66 livres pardon 66 livres
ibitabo 66
bikora ni je ne sais combien de chapitres il y en a qui ont compté les chapitres il y en a qui ont compté les versets il y en a qui ont même compté les caractères de la Bible
hari nabaharuye imirongo hari nabaharuye ibice birimo mu ijambo ry'Imana byose hamwe.
C'est pas le plus intéressant.
Moi, ce
qui m'intéresse le plus,
c'est
que cette parole vivante.
Et
que quand il y a une situation,
que
ce soit une situation d'adversité, ou une situation où on doit conquérir quelque chose, alors elle est vivante et elle œuvre en ma faveur.
Si
je sais l'utiliser, si tu sais utiliser la parole de Dieu, elle va agir contre l'adversité, mais aussi elle va t'aider à conquérir ton territoire. Là où Dieu t'appelle à régner. Là où Dieu t'appelle à ouvrir des brèches. Parce que je vous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et que la foi doit s'exercer par rapport à des choses qui te dérangent. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être l'adversité de plan humain. Ça peut être toutes sortes de choses qui vont contre toi. Le trouble, le manque de paix, la tristesse, la dépression, enfin tout ce que vous voulez qui vont contre
lui.
Ça c'est ton terrain sur lequel tu dois te défendre, prendre une position.
Mais
c'est bien d'être dans le combat.
Mais
les chrétiens qui disent que ça fait 10 ans qu'ils sont en train de se battre, ce sont des chrétiens qui n'ont rien compris sur la parole de Dieu. Il y a un temps où tes grosses batailles doivent se terminer. Il y a un temps où tu dois te tenir sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a telle maladie héréditaire qui essaye d'empoisonner ta vie. Parce qu'il y a des gens qui essayent de faire peut-être de la sorcellerie contre toi. Mais Dieu a dit à Josué que rien ne tiendra contre lui.
Et
rien ne peut tenir contre toi. Si tu sais utiliser la parole de Dieu, là, c'est des choses qui vont à ton encontre, qui essaient de venir dans ta vie contre toi. Par contre, tu dois savoir que la parole de Dieu doit générer la foi dans ta vie pour élargir ta vision, élargir ta tente, voir ce que tu vas réaliser dans la vie selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu a mis des rêves et des visions dans ton cœur.
Mais
ce sont des choses grandioses, parce que quand c'est petit, ça ne vient pas de Dieu. Oh, j'ai un petit témoignage. Dieu a fait. Dieu n'est pas dans le coup là. Dieu est grand.
Il a comme.
Il fait de grandes choses.
Il a hambaï.
Il fait de grandes choses.
Il corrige comme.
Il remue une mer entière.
Il a
passer un peuple. Bien sûr, il y en a qui sont éclaboussés. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont un petit peu éclaboussés et disent « Ah, Dieu agit !» Dieu est dans le business des grandes choses. C'est pour ça que le jour où il te parle, il te dit « Waouh, Seigneur
wow. !»
Mais pour l'instant, ce n'est pas encore réalisé. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'avoir une foi offensive.
Tu
as besoin d'utiliser la parole de Dieu
pour
conquérir ce que Dieu t'a
montré.
Josué devait conquérir le pays promis.
Dieu
lui avait dit, je vous donne ça. Maintenant, c'est à vous de conquérir. Dieu ne va pas conquérir ton pays promis pour toi. C'est à toi de le faire. C'est à toi de conquérir ton territoire. Là où Dieu t'a fait des promesses personnelles. C'est là où tu vas conquérir ton territoire. Ce sera à toi de le faire. Donc il va falloir que tu saches utiliser cette parole vivante et qui agit.
Donc
il va falloir que tu saches comment utiliser cette parole pour qu'elle puisse agir en ta faveur, pour écarter l'adversité et t'amener là où tu dois être, dans la dimension où tu dois être. Une autre chose, sache que rien ne résiste à sa parole. Il n'y a aucun problème trop grand qui peut résister à sa parole. Aucune montagne trop haute qui résiste à sa parole. Aucune adversité qui résiste à sa parole. C'est pour ça que j'ai commencé cet enseignement par vous montrer qui est Dieu. Et comment il a créé le monde. Parce que souvent, ce que tu vois comme étant une grande montagne, ce n'est qu'un petit grain de sable minable aux yeux de Dieu. Maintenant, c'est à toi de te positionner correctement pour que cette montagne, à tes yeux, parce que finalement, ton problème, réfléchis, c'est une montagne pour qui ? C'est une montagne pour qui ton gros problème? Est-ce que tu as réfléchi à cela? C'est une montagne pour toi? Ou pour Dieu? Tu crois que Dieu voit ton problème comme une grosse montagne? Si tu penses ça, c'est que tu n'as pas l'intelligence de Dieu.
Il
n'y a pas de problème trop grand que Dieu ne peut pas résoudre.
Il n'y
a pas de maladie trop forte qui est un problème pour Dieu.
Il n'y
a pas de manque que Dieu ne peut pas combler. Je crois que c'est dans un psaume où Dieu dit ça. Dieu dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. C'est Dieu qui parle. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Et il dira plus loin dans ce même psaume. Je crois que c'est le psaume 50. Il dira, parce que toutes les montagnes, tous les animaux m'appartiennent. Parce que tout m'appartient, la terre m'appartient, l'univers m'appartient. Donc ton gros problème, qui est ta grosse montagne, c'est une montagne aux yeux de qui? Mets les lunettes de Dieu. Arrête de mettre les lunettes du diable. Pour Dieu, ce n'est pas un problème ton problème. Le plus gros problème de ton problème, le plus gros problème de ton problème, c'est bien
l'entraînement.
C'est toi.
Niwewe.
C'est ta vision.
Nikigwe nubona.
C'est le manque d'intelligence divine que tu as.
Nukuburu bumenyi bw'Imana mu buzima bwawe.
Quand tu vois les choses comme ça, tu as compris où est la solution. Mais souvent, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes humains, c'est vrai, mais il faut qu'on apprenne. Les gens restent dans leurs problèmes parce qu'ils n'ont pas la vision de Dieu par rapport à leurs problèmes. Le jour où tu changes ta vision des choses, et pour changer ta vision des choses, il te faut l'intelligence de Dieu. Il te faut les façons de penser de Dieu. Il te faut les mentalités de Dieu. À ce moment-là, tu ne penses plus problème, tu penses solution. Apprends dans ta vie à penser comme ça.
Moi,
personnellement, c'est un principe qui m'aide de plus en plus.
Je
ne veux pas méditer sur les
problèmes.
Je veux méditer sur les solutions. Parce que Dieu ne médite pas sur les problèmes.
Quand
il a vu l'homme dans son péché, il
n'a
pas médité sur « Ah, l'homme est un pécheur, qu'est-ce qu'on va faire ?» Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se sont pas réunis au ciel en disant « Les gars, qu'est-ce qu'on va faire avec ces hommes
pécheurs ?»
Le Père dit « Moi, je n'ai pas de solution. » Le fils dira, je ne vais jamais y aller là-bas. Et le Saint-Esprit dit, qu'est-ce que je vais leur révéler, ce sont des pécheurs. Est-ce que Dieu a fait ça? Est-ce qu'il a pensé problème humain, péché? Non, il a pensé solution. Et il a apporté solution. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es en Christ. C'est pour ça aujourd'hui que tu es en route vers le ciel. C'est pour ça aujourd'hui que tu as ces promesses. Malheureusement, nous ne comprenons pas que cette parole peut œuvrer en notre faveur. Quand tu commences à comprendre ça, alors les choses vont complètement changer. Rien ne résiste à cette parole. La Bible nous dit au psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya la parole et la solution s'est manifestée. Reçois la parole par rapport à ton problème et la solution va se manifester. Ensuite, il y avait un homme un jour, un centenier qui est venu vers Jésus. Et ce centenier, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un serviteur qui était très malade. Vous trouvez cette histoire dans Matthieu 8. Et c'est lui-même qui s'est déplacé. Et il a dit, Seigneur, il faut que tu guérisses mon je ne suis pas digne de toi, mais il faut que tu guérisses, Seigneur, mon serviteur. Et Jésus a dit, je vais y aller. Et ce centenier a dit, ce n'est même pas la peine que tu te déplaces. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Ce centenier avait la connaissance, l'intelligence de la puissance de la parole de Dieu. La parole parlée de Dieu. Sa parole prophétisera ton futur. La Bible nous dit dans Romains 4, 17. Cette parole va prophétiser ton futur. Si tu laisses cette parole sur ta bouche et que tu la parles avec un cœur d'obéissance, cette parole va œuvrer en ta faveur. La Bible nous dit, Romains 4, 17, « Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » On parle d'Abraham ici. « Il est notre père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts. » Et regardez bien. Et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Sache une chose. Quand tu médites la parole, que tu la crois, et que tu la parles, alors le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie par rapport à tes situations. Le royaume de Dieu se manifeste quand tu parles cette parole et que tu agis sur cette parole. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur agir sur la parole, sur parler la parole. Mais sachez qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Cette puissance manifestera le règne de Dieu dans les situations, dans vos situations. Si tu sais utiliser cette parole, en la croyant, en la parlant, en agissant dessus. Rappelez-vous de Pierre quand il a prêté sa barque à Jésus. Ils n'avaient rien pêché pendant toute la nuit. Mais Pierre savait ce principe. Est-ce qu'on peut avoir les musiciens maintenant? Merci. Et Pierre connaissait ce principe. Lorsque Jésus avait fini son sermon, il avait utilisé sa barque. Pierre certainement voulait une chose. Pierre voulait une location de sa barque. Il pensait qu'il allait négocier le coût. Vous connaissez la mentalité de ce genre de personne.
Prends,
utilise et on discutera après.
Et
Pierre était dans ce genre de mentalité.
Et
Jésus va faire un miracle pour lui.
Ils
n'avaient rien pris pendant toute la nuit.
Mais
au moment
où
Jésus va lui dire, jette le filet de ce côté-là. Il a dit, Pierre a dit, c'est vrai, on n'a rien pris pendant toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a fait ça.
Et
il a vu la parole de Dieu œuvrer en sa faveur. Vous trouverez cette histoire dans Luc chapitre 5. Il a simplement agi sur la parole de Dieu. Et il a vu la puissance de la parole de Dieu. Dieu ne t'a pas donné sa parole pour qu'elle reste inactive dans ta vie. Mais Dieu t'a donné sa parole pour montrer qui il est. Pour qu'il puisse se révéler dans ta vie comme sauveur. Mais aussi pour que tu puisses acquérir son intelligence et amener une transformation dans tes problèmes. Parce que Dieu veut que tu penses solution et non pas problème. Dieu veut que tu mettes ta pensée, ton imagination sur les visions et les rêves qu'il t'a donnés. Et non pas sur les situations difficiles que tu traverses. Quand tu continues à persévérer dans sa parole, alors que tes situations vont exactement à l'encontre de ce que Dieu t'a dit. Comme Abraham, où Dieu lui promettait un territoire, lui promettait une descendance infinie. Mais il avait un problème. Il n'avait pas d'enfant. À ce moment-là, au bout d'un moment, il a commencé à mettre les yeux sur la solution, sur les promesses divines. Et il a vu son miracle. La Bible est remplie d'exemples pour nous inspirer, pour nous instruire. Pour que nous puissions utiliser cette parole et marcher selon cette parole. Et c'est intéressant d'étudier la parole parce que ça t'amène, ça défie ta foi, ça inspire ta foi. Ça te donne la foi pour vivre des choses que Dieu veut que tu vives et que d'autres ont déjà vécu. Pour que tu puisses avoir cette révélation de Dieu beaucoup plus puissante d'année en année, afin que tu puisses grandir et marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire, afin que tu puisses accomplir davantage, afin que l'inimitié s'écarte de ta vie et que ta tente s'élargisse. Et tu as cette parole pour ça. Il faut que tu saches l'utiliser. Il faut que tu veuilles l'utiliser. Parce que si tu ne le fais pas, ça va être le monde qui va t'influencer. C'est pas toi qui va influencer le milieu, le monde. Et c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Influencer le milieu dans lequel tu es. Que chacun ferme ses yeux ici. Nous allons prier. Père, je prie pour ce peuple pour qu'ils puissent découvrir davantage ta parole, pour que Seigneur ils puissent puiser dans ton intelligence et ta sagesse, pour qu'ils sachent découvrir Seigneur les trésors des richesses qu'il y a en
Christ.
Je prie pour que Seigneur nous apprenons davantage à plonger nos regards dans ta loi parfaite, que nous apprenions Seigneur à voir ta parole comme quelque chose qui offre en notre faveur pour écarter l'inimitié et Seigneur pour ouvrir notre destinée. Père, je te remercie pour la puissance de ta parole. Je prie pour que davantage ce peuple l'utilise, qu'il la parle, qu'il la pratique, qu'il ait un terrain Seigneur sur lequel il puisse prier puissamment et efficacement pour ta gloire. Oh, je veux te remercier pour cela.